Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce début de soirée et surtout, eh bien, pour évoquer le Ballon d'Or, un cinquième Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo, la star du football portugais, la star du Real Madrid, la star de la planète football, a donc remporté le trophée remis par France Football ce soir à la Tour Eiffel. Le voilà donc à égalité avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, cette pulga argentine qui, elle aussi, est star de cette même planète football. Les deux extraterrestres de ce monde avec cinq Ballons d'Or, chacun. Jusqu'où iront-ils? Sont-ils à égalité? Eh bien, pour réagir à chaud à cette nouvelle, j'ai deux invités très spéciaux. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Il est où votre ballon, Rémi?
Il est actuellement au sommet de
caché.
La Tour Eiffel.
Et puis Nabil Djellit, bonjour Nabil.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Marco Martins, notre ami portugais est au Portugal et nous le joindrons dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, eh bien, nous évoquerons la très belle soirée des buteurs africains en Ligue des Champions. 9 buts des pieds de 6 internationaux, dont le Camerounais du FC Porto, Vincent Aboubakar. Les 16 qualifiés sont maintenant connus. La déception des éliminés de Naples doit être grande, peut-être aussi celle de Dortmund ou de Leipzig. Et nous nous prêterons au jeu des pronostics qui contre le PSG en 8e de finale. Avant un tirage au sort qui aura lieu lundi prochain, nous en parlerons avec Habib Bey, Bruno Salomon et Chérif Guémour. Pour l'instant, Radio Foot, c'est parti.
Le Ballon d'Or France Football 2017 est Cristiano Ronaldo.
Et le vainqueur, the winner is, n'est-ce pas? Il y avait un énorme suspense. Malgré cette musique qui nous le fait croire, c'est donc logiquement Cristiano Ronaldo, logiquement parce qu'il était le favori. Le Portugais a gagné aujourd'hui son cinquième Ballon d'Or pour la saison 2016-2017. Il l'avait gagné l'an dernier. C'est un peu comme la Ligue des Champions. Il la gagne l'année dernière, il la gagne cette année. Et à chaque fois, il gagne le Ballon d'Or. C'est le choix donc d'un jury de 176 journalistes du monde entier. Est-ce que ce choix vous a semblé logique, Rémi, à défaut d'être surprenant?
Très très logique, dans la mesure où la seule question qui se posait, c'est que les concurrents pourront récolter au moins une voix. Donc c'était là le seul suspense. Quant à Cristiano Ronaldo, tout était clair et net. Il ne pouvait ne pas gagner ce Ballon d'Or. Et ça montrait déjà toute sa force et tout son caractère, parce que là, il a fait une véritable remontada, comme on est en train de le dire. C'est-à-dire que de 4 Ballons d'Or à 1, où il était mené par Messi, il est déjà à 5 Ballons d'Or partout. Sauf que de surcroît, lui, il a 2 FIFA Best Player que Messi n'a pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Cristiano avait un véritable concurrent. Et d'ailleurs, ça a été la même chose. Même en 2014, il écrase systématiquement quand il remporte le Ballon d'Or.
Sur la liste du Ballon d'Or, effectivement, depuis 2013, c'est lui qui en gagne le plus, Nabil.
C'est là où c'est assez incroyable. C'est vrai qu'en 2012, Messi venait de remporter un 4e Ballon d'Or. Et je pense que peu auraient imaginé à un moment que Ronaldo allait pouvoir niveler cet écart et revenir. C'est pas, déjà en remporter un, c'est très difficile, parce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez bon et il faut que vous soyez
meilleur que les autres.
Oui, et puis surtout dans le bon club au bon moment. Donc alors c'est sûr que quand vous êtes au Real de Madrid, vous avez plus de chances de gagner des choses que le contraire. Et ensuite, là où il a été aussi bonifié et valorisé, c'est aussi sa victoire à l'Euro avec l'équipe, la sélection nationale du Portugal, qui lui a permis aussi de remporter un Ballon d'Or. Moi, je vais être franc avec vous, c'est un garçon, il nous surprend pas parce qu'on connaît son talent, on connaît son potentiel, mais le voir, comme l'a dit à juste titre Rémi, réussir une telle remontada face à un tel phénomène que Lionel Messi, je pense que on a le droit de pas aimer Ronaldo, on a le droit de dire que c'est pas notre joueur préféré, Mais pas respecter une telle carrière et un tel joueur, c'est impossible.
Oui, parce que son palmarès est vraiment stupéfiant quand on regarde. C'est donc 5 ballons d'or. Il a aussi eu 4 fois le soulier d'or européen, c'est-à-dire celui qui récompense les buteurs.
Là aussi, il faut souligner qu'il était mené par 4 souliers d'or à 1. Et il a aussi fait la remontada. Et même au niveau.
C'est bien un mot espagnol.
Voilà. Et même, Annie, il faut aussi dire que, même au nombre de buts en Ligue des Champions, c'est-à-dire en 2012, Messi est à 56 buts inscrits en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est à 43 buts. C'est-à-dire que Messi le dépasse avec 13 buts. Aujourd'hui.
Ils sont à égalité.
Ah non, c'est lui qui dépasse Messi.
113, ouais.
113. Oui.
Mais là, ils sont arrivés à égalité sur la phase de poule hier soir grâce au but.
Ouais,
de,
mais sauf qu'il dépasse maintenant Messi avec 13.
Ouais, mais il dépasse Messi parce qu'il a. Bon, on va en parler après avec
Mais
Annie,
écoutez, mais... parce qu'il est aussi meilleur buteur donc de cette phase de la Ligue des Champions. Et puis, il est aussi meilleur buteur d'Espagne à 3 reprises. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre une fois. Il a 3 championnats d'Angleterre à son actif, 2 championnats d'Espagne, c'est absolument incroyable, 2 super coupes d'Espagne, donc on le sait, 4 victoires en Ligue des Champions, enfin la liste est absolument étourdissante. Et on va écouter eh bien le premier commentaire de Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Alors c'était en haut de la Tour Eiffel, vraisemblablement au deuxième étage, et c'était très impressionnant, la chaîne qui retransmettait cela, c'est-à-dire l'équipe du groupe France Football, eh bien ils ont filmé de loin Cristiano Ronaldo qui se retourne avec son ballon d'or sur une des terrasses, disons, de la Tour Eiffel en plein air. Et voilà donc son commentaire juste après. Il était interrogé par David Ginola.
Bien sûr, je suis heureux. C'est un grand moment de ma carrière. Je suis content. C'est quelque chose que je souhaite recevoir tous les ans, toutes les saisons. L'année dernière, on a fait une saison merveilleuse. On a été dans la Ligue des Champions, dans la Liga espagnole, et en tant qu'individuel, j'ai été le plus buteur de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, les trophées, ça aide à gagner. Donc, j'aimerais remercier mes camarades de l'équipe de Real Madrid, toute l'équipe a été très importante pour moi, évidemment tous les autres qui m'ont aidé.
Alors Cristiano Ronaldo, voilà ses premiers commentaires au sujet de ce Ballon d'Or. On va aller du côté du Portugal où se trouve Marco Martins. Bonsoir Marco, boa noite.
Boa noite, Annie.
Alors Marco, racontez-nous, il paraît que c'était retransmis dans 120 télévisions dans le monde. Est-ce qu'au Portugal, on suivait aussi cette distinction à travers la télévision au Portugal?
Oui, effectivement, c'est vrai que dans les cafés ou même dans les stades, parce qu'il y a des matchs qui se disputent aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde était très attentif, même s'il n'y avait pas vraiment de surprise au final pour les spectateurs. La surprise aurait été que Cristiano Ronaldo ne gagne pas ce 5e Ballon d'Or.
Oui, effectivement, nous aussi, on avait un peu misé sur lui. Qu'est-ce qu'on dit du fait qu'il soit toujours au sommet de son art au Portugal ?
Eh bien, c'est vrai qu'au Portugal, l'image de Cristiano Ronaldo est toujours, entre guillemets, aussi bonne. Parce que on se dit que c'est une icône nationale, une icône du pays. Quand Cristiano Ronaldo grandit, c'est aussi le Portugal qui grandit. Il faut rappeler que c'est vraiment un petit pays, entre guillemets, avec 10 millions d'habitants. Et quand quelqu'un a autant de succès, réussit à projeter autant une nation à l'extérieur, et quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle automatiquement du Portugal. On se demande où est ce petit pays, d'où il vient, quel a été son parcours. Du coup, c'est vrai que les Portugais prennent une petite partie quand même de Cristiano Ronaldo en eux, ont en eux une petite partie de Cristiano Ronaldo en disant « il est à nous ». Cristiano Ronaldo, pas l'Allemagne, pas la France, pas l'Argentine, non,
pas l'Espagne.
Petit pays, exactement. Il est à nous. C'est une identité portugaise.
Il vient souvent au Portugal. On le voit souvent, disons, dans son propre pays.
Oui, j'ai envie de dire qu'on le voit souvent sur son île. C'est vrai qu'il est originaire de Madère. Il a énormément de business créé là-bas. Il a un musée, il a un hôtel.
Une statue.
Il a maintenant Une statue, un buste aussi à l'entrée de l'aéroport qui porte maintenant son nom. Donc c'est vrai qu'il va souvent là-bas. En plus, son frère est celui qui gère le musée CR7, donc il est obligé souvent d'aller à Madère. Et il va aussi souvent au Portugal, où il a pas mal de familles à Lisbonne, dont ses sœurs. Donc c'est quelqu'un qui souvent se déplace au Portugal, mais il a d'autres bonnes adresses, comme pourrait nous le dire Nabil.
Oui, du côté du Maroc également, qui va rencontrer à la Coupe du Monde.
Bon, bah, la prochaine étape, c'est donc la Coupe du Monde pour Cristiano, et on aura l'occasion de l'admirer sans ses ballons d'or, mais avec tout son art sur le terrain. Merci beaucoup, Marco Martins, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Bon retour à Paris.
Obrigado, Ali, et puis bonne soirée à vous, et puis vive Cristiano Ronaldo. On espère qu'il arrive aux 7 ballons d'or, parce qu'évidemment, c'est pas anodin qu'il ait 17 ballons d'or. Je pense que c'est vraiment une image de marque et son marketing qui marche à plein pot pour essayer d'arriver à tout prix, lui qui a déjà 32 ans, d'arriver à ce 7e ballon d'or qu'il veut tant.
Eh ben, il en manque 2 encore. Merci beaucoup, obrigado. À bientôt.
Obrigado, Ali.
Oui, il l'a dit effectivement au cours de cette émission. Il avait déjà confié à l'équipe il y a quelques temps qu'il rêvait d'avoir 7 enfants. Et là, il voudrait 7 ballons d'or. Évidemment, on pense à son numéro 7 dans le dos. Rémi, sincèrement, vous pensez qu'il peut encore en gagner 2?
Peut-être plus. Il faut quand même se dire que...
Enfin, là, vous emballez, Rémi. Bon, allez-y, on vous écoute.
Il n'a pas de limite d'âge, votre Cristiano et ce cher Cristiano Ronaldo.
Matteo savait gagner son ballon d'or à 40 ans et 10 mois.
Mathéus.
C'est-à-dire que, regardez, le premier ballon d'or a été donné à quelqu'un qui avait...
C'est pas Stanley Matthews, plutôt?
Mathéus, voilà, c'est ça
Stanley
que j'ai
Matthews,
dit.
Stanley Matthews, plutôt, qui était un Anglais, qui jouait à Stoke City. Voilà. Lothar Matthäus jouait avec l'équipe d'Allemagne.
Donc, c'est pour ça que je dis, il avait 40 années et 10 mois. Et quand vous essayez de regarder, je vous ai dit, par exemple, que en 2017, on a essayé de voir comment est-ce que, en janvier, Cristiano Ronaldo est parti de 30 kilomètres de sprint, voilà. Et j'ai dit, il est allé à 32 kilomètres. Donc, là,
il a 32 ans.
Et voilà. Et quand vous essayez de regarder la saison dernière, en phase éliminatoire de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo était à 2 buts. Or, cette fois-ci, il a marqué 6 buts, en phase éliminatoire. Et quand vous essayez aussi de regarder l'évolution de Cristiano Ronaldo, lorsque vous prenez tous les 11 derniers matchs de Ligue des Champions, il a marqué, il a été terriblement performant. Et il a marqué contre tous les grands gardiens que tout le monde disait que ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'il est sur une pente ascendante.
Tout à l'heure, Abibay parlait d'un joueur qui se bonifie comme le bon vin. Nabil.
Oui, pour parler un peu du jeu du terrain, il a muté dans sa manière de jouer. C'est un garçon qui a été formé comme ailier au Sporting du Portugal et à Manchester United. Il a joué sur les deux côtés. Il s'est transformé en super Cavani, en super scoreur. Il évolue désormais en pointe, notamment avec Karim Benzema. Même avec la BBC, il avait tendance quand même à repiquer dans l'axe. Après, je mettrai quand même non pas des réserves ni un bémol. Il y en a pas en mettre sur la qualité d'un tel joueur, mais la Coupe du Monde va être le vrai juge de paix pour le prochain Ballon d'Or. Donc pour lui, il faudrait gagner la Coupe du Monde avec le Portugal pour espérer gagner la Coupe du Monde. S'il porte le Portugal vers la Coupe du Monde, évidemment, Annie qui sera...
2010, mais s'il gagne le Ballon d'Or sans gagner la Coupe du Monde.
C'était pas exactement le même jury, le même panel, et ça fonctionnait pas de la même manière.
Même le jury des journalistes avait plébiscité Schneider. Schneider n'avait pas remporté.
Mais il était finaliste quand même.
Donc cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement gagner. Parce que c'est fait une Ligue des Champions formidable, et de toutes les façons, avant de se qualifier pour la Coupe du Monde, il faut quand même se dire que lui, il a marqué... Et si je peux me permettre,
il va se retrouver dans le duel parce qu'ils sont indissociables. Messi aussi, son objectif, c'est la Coupe du Monde avec l'Argentine. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Messi? Parce qu'on est obligé de parler de Messi, on n'en a pas parlé.
Il est deuxième, sur la deuxième marche, bien sûr.
Qu'est-ce qui manque à Messi? Est-ce qu'il a réussi en partie, notamment Cristiano Ronaldo avec le Portugal et l'Euro, c'est de gagner une compétition internationale majeure avec sa nation qu'est l'Argentine. Donc, ça va être extrêmement intéressant et pimenté, cette Coupe du Monde, parce que derrière, effectivement, l'objectif commun et l'objectif d'une nation, il y a toujours des objectifs individuels, et ça va être le paroxysme, l'affrontement final.
Maintenant qu'ils sont à égalité.
En tout cas, certainement, Annie, on peut le dire, peut-être la dernière fois que Messi et Ronaldo se croiseront dans une Coupe du Monde, parce que peut-être que Messi, un peu plus jeune, va en jouer une autre, mais Ronaldo, peut-être qu'à 38, 39 ans, peut-être qu'il aura envie aussi de faire autre chose, on n'en sait rien, mais ça sera aussi un match dans le match. Également pour l'Argentine et le Portugal et pour Ronaldo et Messi parce qu'ils sont inséparables. Ils sont inséparables.
En tout cas sur cette liste, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que il n'est pas le seul joueur du Real Madrid à être distingué. On a Cristiano Ronaldo donc suivi de Messi et de Neymar. Hein. C'est Neymar qui est troisième, Buffon est quatrième seulement on va dire parce que Buffon c'est sûrement sa dernière apparition sur cette liste. Cinquième Modric, sixième Ramos. Donc on a deux autres joueurs du Real et on a douzième Isco.
Alors, et 25e Benzema aussi qui est là.
Effectivement. Et du coup, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, était lui aussi à la Tour Eiffel, donc à quelques encablures de notre studio ici à RFI. Et on va l'entendre, Florentino Pérez, qui lui, eh bien, parle en français.
Pour le Real Madrid et pour tous les madridistas du monde, ce cinquième ballon d'or, c'est un honneur pour tous. Et une reconnaissance surtout pour les meilleurs joueurs du monde, comme c'est Cristiano Ronaldo. Je crois que Cristiano Ronaldo a toutes les valeurs qui portent le Real Madrid, non? L'effort, le respect, le travail en équipe. Pour moi, c'est le plus complet joueur après Alfredo Di Stéfano. Pour moi, c'est l'héritage d'Alfredo Di Stéfano.
Et oui, il bouscule les idoles parce que Alfredo Di Stéfano, c'était une des grandes idoles. Ça reste un des grands personnages du Real Madrid, même si c'est en des temps anciens, pratiquement en noir et blanc, comme on aime dire. Et puis Eusebio, parce que sur la scène portugaise, c'était un autre icône de ce monde footballistique.
Et également Luis Figo qui a remporté ce ballon d'or. Alors c'est marrant pour la comparaison avec Di Stéfano. Quand Zinedine Zidane est arrivé au Real Madrid, la une de Marca, c'était Di Stéfano de dos avec Zidane, il est revenu. Justement, on avait comparé Zidane et Di Stéfano, notamment pour aussi la calvitie, parce que ils se ressemblaient dans le style de jeu. Mais il est très fort, Florentino Pérez, parce que il retrace l'histoire aussi de son club à travers ses joueurs, en citant effectivement ceux qui ont fait les ballons d'or et toujours en comparaison quelque part, même si c'est pas dit, au FC Barcelone.
Messieurs, il nous reste peu de temps. J'aurais aimé voir un autre point de cette liste avec vous. C'est les joueurs africains qui sont sur cette liste. Alors malheureusement, ils sont très loin. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui est 21e ex aequo avec Bonucci.
Ouais. Il était 11e la saison dernière, si je me souviens bien.
Effectivement, il a pas mal baissé. Et puis Sadio Mané qui lui est 23e sur cette liste.
Et c'est super, pour Sadio Mané. Aubameyang, on aurait pu l'espérer un peu plus haut. Il y a un autre joueur qui malheureusement a peut-être débuté sa saison un peu trop tard en club, c'est Mohamed Salah, l'Égyptien, qui aurait pu très bien être dans cette liste des 30. Mais vous avez raison, ça met en relief aussi le manque de stars, de grandes stars dans le football africain.
Rémi.
Moi, je crois que c'est un problème de club également, parce que là, on se rend compte que Pierre-Emerick Aubameyang, s'il aurait été dans un grand club, certainement, il aurait pu être avantagé, tout comme Sadio Mané, parce que
Sadio Mané, c'est les Reds.
Sadio Mané, c'est très bien, 23e.
Et il continue en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas, justement, d'Aubameyang, qui ira en Ligue Europa.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus les Didier Drogba, qui était, par exemple, au pied de podium quand il
ou
était
Samuel
à Chelsea,
Eto'o,
ou Samuel Eto'o. On n'a plus cette qualité de joueur-là qui peut s'imposer dans des grands clubs en tant que titulaire. Donc aujourd'hui, si jamais Aubameyang venait d'ailleurs au Real, c'est pas sûr qu'il aurait été titulaire devant Benzema. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il manque de joueurs véritablement charismatiques avec un talent digne de ce nom. Aussi vrai, je revendiquais un ballon d'or pour Samuel Eto'o. Aussi vrai, je ne peux pas revendiquer un ballon d'or ou même être parmi les 5 premiers aujourd'hui quand je vois
pas la pour
qualité,
l'instant en tout cas,
pas
Rémi.
Pour l'instant, pas
parce
pour
que
l'instant.
Ce sont des joueurs. On pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Il y avait eu ces rumeurs et lui il rêve de jouer au Real. Sadio Mané aussi. Ils ont encore un avenir devant eux. Pourquoi pas dans un grand club qui pourrait leur permettre d'obtenir ce trophée. Merci beaucoup d'avoir réagi à chaud au cinquième ballon d'or de Cristiano Ronaldo. On y reviendra évidemment dans le Café des Sports demain, notamment avec vous Rémi Ngonio. Et puis sachez que Cristiano Ronaldo est le roi d'Instagram avec 116 millions de suiveurs.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI avec Habib Bey, avec Bruno Salomon et Chérif Guémour, notre confrère de SoFoot, et Bruno Salomon de France Bleu Paris. Hein, je me suis pas trompée. Tous nos auditeurs qui aiment le PSG, qui aiment écouter les matchs à la radio, il y en a beaucoup, et bien c'est vous qu'ils peuvent écouter. Alors on va évoquer maintenant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions en mode élimination, puisque le prochain tour de la compétition européenne sera maintenant fait de matchs avec élimination à la clé. Ce seront alors les huitièmes de finale. Depuis hier soir, en effet, nous connaissons tous les qualifiés de cette nouvelle phase. Les derniers matchs ont délivré donc les quatre qualifiés et l'ordre surtout complétant la liste finale. Et on a donc le FC Porto, FC Séville, Liverpool et Shakhtar Donetsk qui ont donc précisé leur participation à ces huitièmes de finale. En tout cas, c'était une soirée incroyablement prolifique. Alors, vous à Porto, vous en avez vu des buts hier soir à Lille.
J'en ai vu d'ailleurs deux d'un Africain, Boubacar.
Voilà, vous étiez au commentaire avec Stéphane Guy sur Canal+. Et eh bien, parmi ces buts, il y a ceux de Vincent Boubacar, mais au total, c'était 9 marqués par des buteurs africains. Et on va entendre cela. Early on with Milner crossing on the run. And Mane, it is one of those moments. It's a fantastic fourth goal for Liverpool. And a chance for Sturridge. But in the end, he's given the goal to Mane. Milner's in there, and so Sturridge, and here's Salah's chance. Surely he's going to, he does. But it's been a long wait for Mo Salah. Gol del Borussia Dortmund. Schmelz anticipó y voló, sí, la capa para volar de gol Aubameyang. Ferreiro al medio para Aubameyang, la lucha con Sergio para Aubameyang. Qué ido claro sobre Aubameyang. Qué bien. Et pas de hors-jeu pour Aboubakar. Il arrivait derrière. Et lui qui avait fait tant de mal au Monégasque lors de la rencontre au Stade Louis II avec un doublé, marque dès l'entame de la partie. Aboubakar dans la surface, l'international camerounais pour le doublé. Il se régale face au Monégasque. Ça, c'est une vraie réussite. Alors un melting pot de commentaires hein, en langue locale, on va dire, c'est-à-dire suivant les équipes, et c'est ce qui nous amuse toujours dans Radio Foot. Mais le nom, notamment des buteurs qu'on a entendu, il y avait le Sénégalais donc Sadio Mané qui marque un incroyable but.
Qu'est-ce qu'il est beau ce but.
Ouais. Wow. Après on a un doublé de l'Égyptien Mohamed Salah, on a le doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Donc le doublé de Vincent Boubacar, le Camerounais, champion d'Afrique. Et puis il y a eu aussi des buts de l'Algérien Yacine Brahimi dans cette équipe de Porto et le Guinéen Nabi Keïta. Alors messieurs, lequel vous a plu le plus, Chérif?
Aubameyang, la tête plongeante tout de suite, parce que c'est un centre d'une violence, il va la tête plongeante, les deux buts. Et alors j'ouvre une petite parenthèse, si Pierre-Emerick avait marqué avait vraiment transformé toutes les occasions qu'il a eues, que ce soit en Ligue des Champions, mais surtout en Ligue des Champions, peut-être que le Dortmund aurait été qualifié. Et, c'est dommage. Mais pour moi, Aubameyang, quoi. Allez, le doublé d'Aubameyang. Hein.
Moi, j'ai réagi, Bruno. C'est celui de Mané. Hein.
Ouais, ça de Mané.
Même vous qui étiez devant les buts d'Aubameyang, de Brahimi, Habib.
Sadio Mané, il est exceptionnel, le but. Parce que le centre, c'est vrai qu'il est parfait, mais je trouve que l'équilibre, ce ciseau,
la précision,
est incroyable.
La violence à laquelle ça part aussi.
Exactement. Il est sénégalais, donc. Et puis il est aussi avec, on va dire, Mohamed Salah pour le Ballon d'Or africain, donc il faut lui donner un petit peu de force.
Je sais pas comment il a parvenu à la cadrer déjà. Je sais pas comment il fait.
Bon, on parle du Ballon d'Or africain. Alors c'est vrai qu'il y aura cette cérémonie où on attend, ça sera à Accra pour récompenser le meilleur buteur donc d'Afrique. Il y aura durant le week-end une grande fête du côté de Nouakchott. Là, ça sera pour récompenser les meilleurs du football mauritanien, ceux qui se seront illustrés durant la saison. On parlait de ces buts et de ces bons résultats. Vincent Aboubakar, donc, est-il le parfait numéro 9? En tout cas, vous allez l'écouter. C'était au micro de Marco Martins, qui est un des correspondants de RFI au Portugal. Il était à Porto hier soir et lui a posé la question, vous allez l'entendre, il fait le modeste Vincent Aboubakar.
Le premier but, j'ai juste anticipé. Je savais que Brahim, il allait jouer, il allait remiser en une touche. J'ai juste anticipé le deuxième but. Bon, j'ai eu du sang-froid parce que c'était dans la surface. Je me suis calmé, j'ai fait le bon geste. Donc, C'est des jeux, c'est des sons, des buts qu'on travaille à l'entraînement. Après, le jour du match, ça vient d'une manière intentive. Donc, il n'y a pas quelque chose de grandiose là-bas.
Nos confrères lui mettent 8 d'ailleurs dans l'équipe aujourd'hui.
Ah, il a été incroyable.
Il est trop modeste. Hein.
Bah, il est trop modeste parce que je trouve qu'il y a eu une immense progression de la part d'Aboubakar dans sa faculté à décrocher, à garder les ballons, à trouver cette affinité technique aussi avec Brahimi. Brahimi qui a été exceptionnel hier dans sa qualité technique. Il revient vraiment à son meilleur niveau.
La défense monégasque les a aidés un peu.
Oui, mais malgré tout, il est quand même assez incroyable.
Alors, il y a du timing,
il y a vraiment du talent chez Brahimi. Après, Aboubakar, c'est une surprise de le voir à ce niveau-là, surtout en Ligue des Champions, parce qu'on l'avait vu marquer des buts à Lorient, il était parti au Beşiktaş, Porto l'a ramené à Porto, ils étaient presque à le transférer à Marseille, parce que Marseille s'était positionné, puis ensuite il y a eu cette interdiction de recrutement, qui a fait qu'on l'a gardé du côté de Porto, et Conceição lui a donné énormément de confiance, et aujourd'hui c'est l'attaquant numéro 1 de Porto, il est décisif en Ligue des Champions, je crois qu'il a mis 5 buts sur la Ligue des Champions, donc aujourd'hui il faut lui rendre aussi hommage, parce que lorsque vous marquez autant de buts en Ligue des Champions, c'est que vous avez un niveau assez incroyable.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2017, il y a encore de la place pour les numéros 9.
Exactement.
Les numéros 9, voilà, on se centre devant les buts, t'as un gars, il te la met au fond, ou alors il fait les bons appels, on a toujours besoin des numéros 9, et Aboubakar, c'est un bon exemple.
Et ce qui est intéressant en plus, c'est dans l'interview qu'il donne, il dit, je sais que Brahimi va me la mettre là, donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail derrière tout ça, c'est pas le numéro 9, et ça me fait rire, parce que quand j'entends Marseille, effectivement, je me souviens encore des supporters de Marseille, voilà, là, qu'est-ce qu'on va aller prendre Aboubakar, la cata, machin, etc.
Bah, du coup, ils ont pris Mitroglou.
C'est un vrai numéro. Non, mais oui, ils ont pris Mitroglou, ils ont pris Captain Haddock, là, on sait toujours pas si c'est
joué. Aboubakar, c'est déjà 9 buts en championnat portugais. Le Porto est premier. Il marche en Ligue des Champions. Et puis, il l'a dit hier au micro de Canal Plus, c'est qu'il a énormément de confiance de la part de Conceição. Il lui doit beaucoup, apparemment, c'est ce qu'il a dit. Et Porto a une équipe. Attention, moi, je vois beaucoup de gens dire, il faut prendre Porto parce que c'est une petite équipe. Porto, faut les jouer là-bas à domicile. Même si c'est vrai que Monaco a réussi à marquer 2 buts, je pense que défensivement ils ont quelques faiblesses, mais offensivement Brahimi, Marega, ils ont Aboubakar, on l'a dit, il y a des joueurs quand même qui sont pas mal dans cette équipe. Hein.
Ils se trouvent très très vite. Ouais.
Liverpool, donc ce carton hier soir de 7-0, sans pitié hein, pour donc les Reds de Jürgen Klopp. Sadio Mané, c'est donc un doublé de Sadio Mané, c'est pas un doublé de Salah. En tout cas, Sadio Mané peut-être futur Ballon d'Or. Hein. Il doit
on
y être sur cette liste des 30.
Parce qu'il pourrait succéder à Aliadji Diouf, qui a été double Ballon d'Or sénégalais aussi,
oui.
Par le passé. Mais je crois que Sadio a réalisé une saison assez incroyable avec Liverpool. Même les anciens de Liverpool, que ce soit Gerrard ou Carragher, disent de lui qu'il est le talisman, qu'il est le joueur clé de Liverpool. Alors c'est vrai qu'il y a Mohamed Salah qui lui aussi a fait des très bonnes choses avec l'Égypte, avec Liverpool. Je crois qu'il est meilleur buteur de Liverpool cette saison aussi. Mais Sadio, ce qu'il fait est digne d'un Ballon d'Or africain.
Ah ouais, il assure bien le lien entre le milieu et l'attaque, surtout plus que Salah, à mon avis. Salah est beaucoup plus attaquant, Mané est plus intéressant tactiquement, je dirais.
En tout cas, il est légitime sur la liste du Ballon d'Or général, là, quelque part derrière Cristiano Ronaldo, peut-être aussi futur star de la Coupe du Monde. Habib, on vous a pas entendu depuis qu'il y a eu ce tirage au sort. Une petite aparté sur les Lions de l'Atlas.
Bah, c'est un tirage au sort.
Pardon, sur les Lions de la Teranga.
Oui, c'est un tirage au sort difficile, hein, lorsqu'on voit la Pologne, la Colombie, on se dit que c'est deux équipes qui sont quand même avec James Rodriguez, avec Lewandowski. Donc, mais je crois que c'est un peu la même configuration que ce qu'on avait connu en 2002.
Vous disiez ça en 2002 aussi.
Exactement. Lorsqu'on est arrivé, on avait la France, l'Uruguay et le Danemark. Tout le monde nous voyait marquer 0 point. Ce qui est bien pour les Sénégalais, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une motivation qui doit être exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ils seront vus comme le petit poussé de ce groupe. Je m'entends, mais lorsque vous avez la Colombie et la Pologne, tout le monde pense que ce sont les deux à devoir sortir en huitième de finale. Donc la surprise, elle doit être totale. Je vois pas aujourd'hui le Sénégal inférieur ou globalement très inférieur à ces équipes-là. Je crois qu'on a de très très bons joueurs. On a montré qu'on avait un collectif fort et il faut l'affirmer en Coupe du Monde. Donc moi j'ai toute confiance en Aliou Cissé et ses hommes et je crois qu'on sera capable de faire de grandes choses.
Et bien parmi ces hommes, Sadio Mané.
C'est l'objectif d'aller les huitièmes d'abord et après pouvoir penser à autre chose. On essaie de travailler davantage, on essaie d'aller jusqu'au bout et c'est ce qui fait qu'on est fort comme équipe, donc on va essayer de continuer et marquer pour pouvoir gagner les matchs, parce que pour gagner les matchs il faut marquer autant de plus de buts que l'équipe adverse.
Liverpool en Ligue des Champions, on se souvient de leur campagne jusqu'en finale, pas la saison passée, mais l'année d'avant, quand ils avaient disputé cette finale contre Séville, je me trompe pas, et qu'ils
Europa League,
en Europa League, et qu'ils la perdent sur la scène européenne. Là maintenant, ils sont premiers de leur groupe et comme les équipes anglaises pratiquement dans leur ensemble, et ils montrent leurs ambitions avec l'équipe de Klopp.
Ils montrent leurs ambitions, ils ont l'entraîneur pour, et qu'est-ce que c'est bon surtout de retrouver quand même cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions, c'est sa place.
Avec en plus Coutinho, Firmino. Voilà.
J'ai rien contre l'Europa League.
Ambition offensive. Oui. Ambition offensive. Et le vrai problème, de la Ligue des Champions, bah, pour moi, c'est trop offensif. Oui. Il y a un vrai déséquilibre dans l'équipe de Klopp.
C'est peut-être
mais
le problème de Naples, on va y venir.
Oui, mais Klopp nourrit ça. Klopp nourrit ça depuis des années. Il était comme ça à Dortmund. Lui, ce qui l'intéresse, c'est peut-être de gagner 5-4 que de gagner 1-0. Le vrai problème, c'est que lorsqu'il il est pris à ce piège-là. Lorsqu'il gagne 3-0 contre Séville, par exemple, il change rien dans l'aspect de son équipe, même quand il prend ce but 3-1, 3-2, il change rien du tout, il reste dans cet aspect-là. Alors c'est un aspect qui est beau, magnifique à regarder, mais lorsque vous arrivez dans ces matchs quart de finale, demi-finale, où vous devez parfois calculer, modifier l'approche aussi de votre équipe, il n'est pas doué pour ça. Et on le voit en Première Ligue, il n'est pas champion parce qu'il prend trop de buts. Alors que s'il se préserve un petit peu, je pense qu'il a l'armada offensive pour le devenir.
Ce qui est génial, c'est que du côté de Liverpool, pour le mercato d'hiver, le seul joueur dont on parle, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est-à-dire qu'on vient te dire qu'il veut encore en remettre une couche, quitte à aller mettre maintenant des 6-4 ou des 7-4. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant.
Je vais aller dans le sens d'Habib. Justement, tu vois, le style Klopp, c'est comme c'est des joueurs très très généreux, comme tu disais, avec le gros pressing permanent et tout ça, puis bref, avec une équipe très portée. Il peut le faire parce qu'il a beaucoup de joueurs jeunes. Tu peux toujours pratiquer sous l'eau avec des joueurs jeunes. Le problème, c'est qu'il manque de joueurs qui ont une plus grande maturité, surtout en Ligue des Champions. C'est pas étonnant qu'on a dans l'équipe du Real, on ait des Marcelo, des Ramos, ou même des Cristiano. C'est, à mon avis, c'est ce qui manque dans cette équipe de Liverpool. Un ou deux tauliers, comme ils avaient Gerrard avant, c'est pas étonnant que la seule fois où ils sont revenus en Ligue des Champions, c'est de la période Gerrard. À mon avis, c'est ça. Elle est très jeune. Elle est offensive, mais au bout d'un moment, comme tu dis, il faut savoir mettre le pied sur le ballon, il faut savoir gérer, et ça, il faut des joueurs d'expérience, enfin, tu sais, les joueurs, tu sais, les 28, 29 ans, tu vois, les tauliers. Et à mon avis, c'est ce qui manque à cette équipe de Liverpool. C'est pour ça que moi, cette année, je les vois pas aller très loin.
Je te dis pas qu'ils vont faire des étincelles.
Ouais. Ils peuvent, attention, parce qu'ils ont une telle force de frappe offensive, c'est que demain, ils peuvent te mettre 1, 2, 3-0. Le vrai souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont du mal à préserver des scores, et on sait qu'en Ligue des Champions, c'est très important. Tu sais, sur un match aller, des fois, tu dis, tu peux pas le gagner, mais au moins, tu le perds pas, et tu sais qu'au match retour, t'as cette opportunité-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont construit comme ça. L'Atlético Madrid qui va en finale de Ligue des Champions.
Mais t'as c'est vu comme ça que Simeone a construit. Tu as vu les darons qu'ils avaient, et c'est pareil pour le Real, quand tu as un Kroos qui sait mettre le pied sur le ballon, ou alors un Modric, ça change tout.
Mais là où je te rejoins, c'est qu'offensivement, c'est exceptionnel.
Ça fait plaisir à voir aussi.
Ah bah, c'est le football qu'on aime. C'est le football qu'on aime. Nous, on aime le football qui va de l'avant. On aime le football qui se déséquilibre. On parle d'équilibre aujourd'hui en football. On est tous là à dire, ah, ça manque d'équilibre. Mais comme l'avait dit Stéphane Guy un jour au commentaire, il m'avait dit, mais Habib, abat l'équilibre parce que le football, c'est aussi ça. Ça fait aussi partie de ces déséquilibres qui nous offrent des rencontres exceptionnelles où il y a des 3-3, des 4-4 parce que c'est ce qu'on
Festival
aime.
De buts.
Juste pour terminer, là, c'est pour vous faire sourire. À noter qu'on a peut-être l'explication de pourquoi Moscou a été aussi mauvais aussi. Ce matin, les tabloïds anglais ont annoncé que le médecin du CSKA Moscou avait interdit de sexe pendant 3 jours tous les joueurs. Ils avaient interdiction en arrivant à Liverpool et à première vue, ça leur a pas réussi. Voilà. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait un peu les motiver? Voilà. Mais c'est les tabloïds anglais qui ce matin ont sorti ça. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, ok, on a l'explication, je comprends mieux.
Autour des Coupes du Monde, ça revient très souvent dans les débats brésiliens. Il faut pas. Romario, Ronaldo, Ronaldinho, tout le monde avait son opinion. En tout cas, on parlait de Liverpool. Parlons de ces clubs anglais. Il y en a 5 en compétition. Ils sont tous au deuxième tour. Mais surtout, il y en a 4 qui sont premiers de groupe, Shérif.
J'avais annoncé la couleur au bout de deuxième match parce que bon, on avait l'indice du début de championnat d'Angleterre, retour des clubs anglais, ça c'est incontestable. J'avais annoncé que l'équipe qui m'avait le plus impressionné, c'est Tottenham. Et quand on regarde le bilan chiffré, Tottenham, c'est
ils sont surtout devant le Real Madrid.
D'abord, ils sont avec sortis d'un groupe très dur. Enfin, je suis désolé, mais le double champion d'Europe, quand tu passes devant, c'est que t'as fait quelque chose. Dortmund, qui était une très bonne équipe, bon, ils sont passés devant. Ils finissent avec 16 points. Je crois que c'est le plus haut total de ce premier tour. Invaincu, c'est pas les seuls invaincus, mais bon, quand même.
C'est le plus haut total.
Donc voilà. Alors malheureusement, j'ai pas d'explication sur ce qu'ils font en mal en championnat d'Angleterre, parce que là, c'est de pire en pire. Mais sur ce premier tour, cette équipe de Tottenham, et globalement, les grosses machines, les machines de guerre anglaises sont sur le pied de guerre. Je dis pas que c'est pour cette année. Va falloir les jouer, les clubs anglais, mais ils sont là, ils sont de retour. Alors, peut-être pas cette année, peut-être pas une victoire, mais
Est-ce qu'on n'est pas parti sur... Parce que tous les ans, tous les ans, on a nos clubs anglais qui sont en huitième. Ah, et non. Après la broyeuse du Boxing Day, tu te retrouves avec des clubs qui... Et tout le mois de janvier avec un championnat un peu resserré. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils fassent des étincelles derrière, tu vois. Enfin, je sais
ces
pas.
Dernières, ces dernières années.
Tottenham n'était pas passé l'année dernière.
Voilà, non, mais ces dernières années, j'ai toujours fustigé la façon dont on a surcoté le championnat anglais. Mmh. Et ça me, j'ai pas été étonné pendant 5 années qu'on retrouve pas les clubs anglais dans les très très loin en Ligue des
Champions.
Dans
la compétition. Sauf Manchester City, donc l'année dernière.
Voilà. Mais maintenant, ça commence à se mettre en place. Je pense pas qu'il y ait.
Puis on a des entraîneurs, surtout comme Mourinho, comme Pep Guardiola, qui pensent
à Manchester United en train de. Ça ressemble à quelque chose, je suis désolé. Je suis pas fan, mais ça ressemble à quelque chose.
Deuxième année de Guardiola. Voilà. Deuxième année d'Antonio Conte.
Voilà.
Deuxième année de Mourinho.
Voilà.
Et il faut pas oublier que Pochettino est maintenant depuis 3 ans à Tottenham et il fait du très très bon travail. Klopp est là depuis 2 ans et demi, je crois. Donc, forcément, lorsque vous avez de tels entraîneurs qui arrivent dans des clubs comme ces clubs-là avec des moyens financiers importants. Lorsqu'on regarde City, par exemple, cette saison, en Europe, je dis en Europe, quand vous prenez la globalité de la Première Ligue et de la Ligue des Champions, c'est sûrement le plus beau football aujourd'hui actuellement, même s'ils perdent contre Shakhtar. Mais de ce qu'on a vu en Première Ligue et de ce qu'on voit en Ligue des Champions, c'est quand même admirable. Donc on se dit, lorsqu'on voit City, le niveau de jeu, la qualité de jeu qu'il y a aujourd'hui au sein de City, on dit c'est un potentiel, comme on pourrait dire du PSG,
vainqueur
de la Ligue des Champions. Encore une fois, là où je rejoins Bruno, c'est que le Boxing Day, c'est une période qui est très compliquée pour les clubs anglais parce que c'est le moment, pas forcément où vous gagnez la Première Ligue, mais vous pouvez la perdre. Et c'est là où il y a beaucoup de casse sur le plan physique. Et lorsqu'on voit le niveau des clubs anglais sur le plan physique, on se dit, ils sont peut-être un petit peu en avance par rapport à ce qu'on demande au mois de mars, avril, où il faut faire la différence.
C'est le mauvais moment.
C'est le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, on parle du Bayern par exemple. Le Bayern que j'ai vu, moi, face au Paris Saint-Germain, et le Bayern que j'ai vu au match aller d'Ancelotti, sur le plan physique, c'est pas du tout le même Bayern.
Déjà.
Lorsque vous voyez Kingsley Coman, lorsque vous voyez Tolisso, lorsque vous voyez même Ribéry qui revient de blessure, qui est à ce niveau-là physique, vous vous dites, peut-être qu'au mois d'avril, on aura un Bayern qui sera en pleine bourre.
J'en doute pas, moi.
Et que peut-être que d'autres équipes qu'on a vues très très fort physiquement seront un petit peu moins bien.
Habib, je vais apporter une nuance. D'accord. Moi, je veux bien le championnat anglais, c'est un championnat très exigeant. Il y a le Boxing Day qui rince les équipes et tout ça et tout. Faut pas oublier que dans la deuxième partie des années 2000, on avait cinq clubs anglais qui se tiraient la bourre, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. On retrouvait régulièrement 3 clubs anglais en demi-finale de Ligue des Champions. Et le championnat était mortel. Rappelle-toi, c'est la période de Chelsea, Liverpool, Manchester United. C'est-à-dire Scholes, Gerrard, Lampard. C'est vraiment des monstres qu'on avait, tu vois ce que je veux dire. Et au niveau de l'intensité, ils savaient la garder plusieurs saisons. Moi, je pense qu'on va revenir progressivement à vraiment cette force de frappe britannique. Peut-être pas cette saison, je suis d'accord avec vous, mais ça va revenir. Parce que c'est des hyper compétiteurs.
Mais parce que t'as des coachs qui sont habitués à ça.
Et en plus, tu as ça.
Tu signes.
Voilà.
Concrètement, dans son contrat, tu signes minimum quart de finale, demi-finaliste de Ligue des Champions.
Alors ça va peut-être s'écrouler, je suis d'accord avec vous, après le Boxing Day.
Je veux pas dire que c'est automatique.
Ça va revenir.
C'est pas automatique. Mais quand tu prends Guardiola, tu sais qu'il va t'emmener là-haut. Ouais. Quand tu prends Mourinho, tu sais qu'il va te gagner des titres. Tu sais pas lequel, mais tu sais qu'il va t'en gagner.
Mine de rien,
il arrive. Il en a gagné 3.
Bah oui,
Champions League, Europa League et la Coupe.
D'accord.
Donc tu te dis, ces mecs-là, ils vont t'emmener là-haut. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, de ce que tu vois des clubs anglais en Ligue des Champions, même United, tu peux compter sur le fait que United soit aujourd'hui dans le dernier carré.
Juste un dernier petit mot. Quand je vois les clubs anglais, ça ressemble à quelque chose. C'était pas le cas avant. Moi, j'avais du mal à lire, par exemple, le système de jeu de Manchester United. Maintenant, ça m'a l'air assez rationnel. Et quand tu parles de Manchester City, je suis d'accord avec toi. Tottenham, c'est pareil. C'est des équipes avec leur équipe type, une façon de jouer bien déterminée et avec un coach qui sait où il va. Ça, on le voit tout de suite.
Bruno, un petit mot sur les éliminés de la soirée. Leipzig, Dortmund, les deux clubs allemands, et puis aussi Naples. Naples qu'on avait pris tellement plaisir à voir jouer. Alors, ils vont tous en Ligue Europa, d'ailleurs. Ça va pas être simple pour ceux qui ont quelques prétentions en Ligue Europa. Mais il y a des équipes, peut-être que Naples était victime.
On parlait des équipes qui se préparent pour la Ligue des Champions. Et voilà, Naples a dû se préparer très tôt. Et on a senti dans cette Ligue des Champions...
Ils font le tour préliminaire contre Monaco.
Et ils font barrage. Donc, ils ont dû être prêts pour sortir les Niçois. Donc, effectivement, c'est quel dommage. Et je vais être coquin, mais hier, en regardant le résultat, je me suis dit non, Manchester City aurait pas tiré la chasse quand même comme ça, tranquille, en laissant passer le Shakhtar.
Ah, ils ont tiré la chasse puisqu'il a mis des jeunes de 18 ans, de 17 ans, des
t'as
jeunes joueurs.
T'as tous les droits, le dernier match,
il a remanié son équipe, mais là où je te rejoins, c'est que quand on voit Naples jouer, le vrai problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'ils ont rencontré deux fois une équipe de City qui a été injouable. C'est-à-dire qu'ils les ont battus 2-1 en Angleterre et ils leur ont mis 4 ou 3 ou 4
au
San Paolo. Et à ce moment-là, City a un niveau de jeu exceptionnel. C'est peut-être ce qui a manqué à Naples, de rencontrer justement et de prendre un point ou de prendre un résultat contre City.
Il y a que deux fois Naples quand même. Il y a des insuffisances
là,
aussi.
Là, je suis d'accord avec toi, mais en plus ils ont perdu Goulam. Mais depuis qu'ils ont perdu Goulam, ça devient plus compliqué pour eux parce que c'est moins bon défensivement sans Goulam. Mais c'est vrai que cette équipe nous a régalé en termes de jeu. Ça arrive, fait du superbe travail du côté de Naples. Maintenant, pour les autres, moi Leipzig, je suis pas surpris. Ils m'ont pas impressionné. Pas et pour moi, ça a pas le niveau Ligue des Champions. Et Dortmund, il faut dire que depuis maintenant un an et demi, deux ans, c'est plus du tout la même équipe de Dortmund. Défensivement, c'est friable. Alors, ils ont toujours Aubameyang qui marque des buts et heureusement qu'il est là.
Ouais, mais c'est derrière, vrai qu'il y a eu des changements aussi au sein du club qui font que
plus globalement, on peut faire un mini bilan pour les clubs allemands. Alors, autant on en a fait un sur les clubs anglais, sur les clubs allemands, on ne voit toujours pas arriver cette vague du football allemand. Le Bayern est toujours là. On a pensé qu'avec le Bayern, ils entraîneraient dans leur sillage parce que on nous a parlé de la montée en puissance de la Bundesliga. Je veux bien, mais avec le Bayern, il y a Dortmund qui a un peu suivi, mais où sont Leipzig, où sont Leverkusen, où sont Schalke 04?
Offenheim est sorti pendant le tour préliminaire.
Ça décolle pas. La Bundesliga ne décolle pas.
Un dernier petit sujet, messieurs, on va s'amuser là. Tirage au sort lundi pour ces huitièmes de finale, lundi à la mi-journée. Le PSG, Bruno Salomon, peut donc se retrouver. Alors, effectivement, ce qui a changé hier soir, c'est que cette inversion dans certains groupes qui ont fait que les premiers, par exemple, les clubs anglais se retrouvent premiers, sauf Chelsea. Donc, comme on ne peut pas tirer ou un club qui était dans sa poule ou un club qui est de la même confédération, en l'occurrence les Anglais, du coup, ça a un peu élargi le nombre d'adversaires potentiels. Ils se retrouvent avec potentiellement le FC Séville, donc, au lieu de Liverpool, le Shakhtar Donetsk, donc et plus Naples, Bâle, le Real, Chelsea ou la Juve. Alors, qui préférait ?
Préférer, je préférerais peut-être un coup de Séville, histoire de jouer au ballon et histoire d'écrire une petite histoire avec Unai Emery autour de tout ça. Ouais, je sais pas, le retour à
la... Il est coquin.
Voilà, après, on va juste rappeler les statistiques pour les gens. Le Paris Saint-Germain, parce que finalement, on parle de tirage au sort, mais c'est limite, tu joues à Motus et tu tombes sur la boule noire, mais c'est 28% de chance de tomber contre Chelsea. C'est 12% de chance le Real, et après, tu fais la suite avec la Juventus, etc. Donc, si tout se passe bien pour Paris Saint-Germain, comme tous les ans ou tous les deux ans, tu prends ton petit Chelsea et on verra ce que ça donne.
Ras-le-bol.
Ouais, moi, c'est pareil. Finalement, c'est sympa, mais
Cristiano Ronaldo,
de Madness, moi, j'en peux plus.
On en vient au début du débat qui était Cristiano Ronaldo Messi, Cristiano Ronaldo, ce mano à mano, et là, on va se retrouver avec
PSG-Chelsea. Pour moi, il faut surtout pas Chelsea pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas pourquoi, je les ai vus jouer très souvent cette saison. Antonio Conte est le champion du monde pour faire déjouer les équipes. Et il a un système qui fait que vous avez l'impression de dominer. Il vous attire, vous allez dans cet entonnoir et il vous contre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a été plus ou moins champion d'Angleterre. C'est comme ça qu'il continue à être à la lutte pour le titre en Première Ligue. C'est comme ça qu'il a amené Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions avec des joueurs de grande, grande qualité. Je pense à Eden Hazard, à Morata. Et je me dis que pour le Paris Saint-Germain, ça serait mieux de tirer Bâle. le Shakhtar, bon, il fait froid, mais...
Le Shakhtar, juste un truc, on en a parlé tout à l'heure, on peut expliquer aux gens, hors antenne, effectivement, il fait très froid, mais on rappellera juste que le championnat ukrainien reprend au mois de mars. Donc, c'est-à-dire que tu reprends une équipe qui sera allée se préparer à Chypre, comme ils font d'habitude, etc. Ça peut jouer, ça peut être intéressant. Je dis bien intéressant. Mais par contre, le moins 10, moins 17... à cette époque
match
de l'année,
au match,
moi je l'ai déjà vécu.
Je l'ai vécu aussi. J'ai été joué à Moscou sur moins 10.
Shakhtar.
Sur un terrain, c'était du béton. Et on sait que le Paris Saint-Germain jouait à Montpellier sur un terrain
très compliqué. Les Brésiliens, ils aiment pas trop ça.
À jouer à Strasbourg sur un terrain un petit peu gras.
Il y a beaucoup de Brésiliens au Shakhtar Donetsk. Non, ils se sont adaptés.
Non, mais c'est Paris.
Oui, c'est Paris, c'est Paris. Non, mais le Shakhtar, faut les jouer. C'est des Warriors. Oui. Et sur le tirage, donc tu vas parler d'FC Séville. FC Séville, pareil.
Il n'y a plus Unai Emery, il a changé de côté.
Ouais, mais ils ont, c'est ça, c'est Berizzo. Moi, je me rappelle contre Liverpool, ils sont menés 3-0 et c'est méthodique.
pareil, il y a une identité de jeu, il s'y plie. Il y a le public qui siffle parce que ça va pas assez vite, on balance pas assez devant, ils balancent pas devant, ils accélèrent pas le jeu, ils développent sur les côtés, ils passent par le milieu, ils combinent et résultat, ils font 3-3. Attention à Paris, cette équipe de Séville ne lâche rien, ils savent jouer au ballon. Et s'ils peuvent faire évidemment la misère,
après il faut relativiser une équipe qui joue au ballon. Après il faut relativiser lorsqu'on voit l'effectif de Paris et la qualité qu'ils ont.
D'accord.
Sincèrement aujourd'hui, ils doivent sortir de 8e de finale parce qu'on sait que les ambitions et les investissements ont été faits pour ça. Après, il y a aucun 8e de finale qui sera simple pour aucune équipe. De toute façon, lorsque vous êtes dans les 8e de finale, vous êtes dans ce dernier, on va dire carré très élargi parce qu'il y aura beaucoup d'équipes.
Je suis d'accord avec toi.
C'est compliqué à chaque fois.
D'autant plus qu'on s'est rendu compte que jouer à domicile ou à l'extérieur, ça compte de moins en moins. C'est-à-dire maintenant les équipes faire un résultat, y compris à l'extérieur.
Vous avez tous dû voir la une de l'équipe aujourd'hui, et notamment vous, Bruno, pour le PSG, oui. Rallumer le feu.
Tout à fait.
Allusion à...
À Johnny.
À Johnny.
À Johnny.
Et bien voilà une nouvelle qui vient de tomber et que nous a transmise Pierre Guérin. Une chanson de Johnny Hallyday sera diffusée avant chaque match de football de Ligue 1 et de Ligue 2 durant le week-end.
Il y en avait une hier à Porto.
Et je propose
à la fin du match, ils ont diffusé Johnny Hallyday dans le.
Quelle chanson c'était?
Je ne me rappelle plus la chanson exactement, mais je l'ai fait remarquer d'ailleurs à Stéphane Guiz que j'avais pas mes écouteurs pour parler pour Infosport et j'entendais Johnny Hallyday en fond sonore derrière.
Alors si le club choisit, ils vont choisir allumer le feu, c'est ça?
Ah non, moi pour le Paris Saint-Germain, je lancerai l'envie d'avoir envie, voilà, pour Neymar. Ça
ou alors par rapport au match du Bayern Tennessee.
Bon, je vois que ça vous inspire Johnny Hallyday, ça vous a attristé peut-être aussi.
Oui,
bon,
c'était, on a tous grandi avec
Johnny Hallyday. On a tous un souvenir
exactement.
Avec Johnny Hallyday, certainement, avec notre famille ou avec des amis, voire des fêtes.
Johnny, c'est la France.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé si bien ce Radio Foot. Merci à Pierre Guérin, qui m'a aidé aujourd'hui à préparer l'émission, et à Guillaume Ploquin, qui était à la réalisation. Rendez-vous demain dans le Café des Sports.